Chrétien dans la cité. Georges Chevreau. Présentation. Ce livret offre deux textes peu connus de Mgr Chevreau, prononcés il y a bien des années. Pourtant, ils gardent une puissante actualité permanente. Le premier concerne le travail du chrétien. C'est un très bel exposé à partir d'un commentaire de la parabole des talents. Pourquoi les uns les font fructifier et un autre se contente-t-il de cacher le talent reçu? Ce fut le thème de la conférence de Carême prononcée à Notre-Dame en 1939. Le deuxième texte est un extrait de la conférence prononcée par Mgr Chevreau devant les représentants des unions paroissiales du diocèse de Paris en 1943. Le problème analysé est celui de la participation des chrétiens à la vie de la cité. Comment agir pour que les principes évangéliques soient vécus dans la société qui nous entoure, surtout dans des circonstances difficiles. Le travail de l'homme. La vie vraie est celle qui porte au maximum l'activité de l'homme. Elle est essentiellement un ouvrage. L'homme n'est quelqu'un que s'il fait quelque chose de sa vie. L'Évangile, loi de la vie véritable et surabondante, va nous faire connaître l'œuvre que Dieu nous assigne. L'ordre formel du Christ, renonce à toi-même, nous oblige à lui confier la direction de notre vie. Nous devons lui en remettre la libre disposition. À quoi nous servirait d'être humbles dans nos pensées si nous essayons ensuite de reprendre notre indépendance dans l'emploi de notre activité? L'humilité, dépendance d'amour, doit régir notre conduite. À quoi nous servirait de voir la vérité si nous ne lui soumettions pas notre tâche journalière? La discipline évangélique entend nous libérer de toutes les entraves que l'égoïsme apporte au développement normal de notre vie. Or, sous la poussée de l'égoïsme, l'homme s'expose à gaspiller dans l'oisiveté les années qu'il passe sur terre ou à n'y chercher qu'une satisfaction personnelle non moins improductive. L'homme perd sa vie s'il ne la dépense pas pour accomplir une œuvre qui le dépasse. Mais notre Seigneur nous apprend que la fonction qui nous échoit n'est rien de moins qu'une coopération à une œuvre collective. Tous les hommes sont ensemble au travail en une admirable fraternité. Bien mieux, elle est une coopération effective à une œuvre divine de création et de rédemption. L'homme est le collaborateur de Dieu. Cet enseignement magnifique nous occupera aujourd'hui contre les déformations d'une conception matérialiste de l'univers à faire subir à la loi divine du travail, contre les facilités infructueuses des théories du moindre effort. Jésus nous rappellera la noblesse du labeur humain qui rend notre vie plus féconde. Cet enseignement du Maître est particulièrement lumineux dans la parabole des talents. Et c'est elle que nous commenterons pour y reconnaître la vie de Dieu sur toute l'activité de notre vie. L'obligation où nous sommes d'accomplir pendant notre vie un travail utile, l'achèvement que le travail, compris et entrepris chrétiennement, confère à notre vie. Ces trois considérations, vous le voyez, se réfèrent à la formation personnelle du chrétien. Telle est l'éternelle actualité de la doctrine de Christ, qu'en définissant la notion religieuse du travail, elle éclaire aussitôt les problèmes sociaux qui se rattachent au labeur des hommes. Le maître de notre vie. Un homme, sur le point de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Dieu a fixé l'emploi de notre activité en nous appelant à la vie. Il nous associe à son œuvre. Lorsque Dieu eut placé le premier homme dans le jardin de délices, il lui assigna sa fonction, conserver la création et la compléter par son œuvre personnelle. Le récit biblique nous fait assister ensuite à une scène dont la description imagée recouvre un sens profond. Dieu fait défiler devant Adam les animaux des champs et les oiseaux du ciel, en l'invitant à leur donner un nom. L'homme introduit par le Créateur dans le grandiose ouvrage de l'univers franchit en même temps le seuil de la science. Son savoir consistera, suivant le mot de Kepler, à repenser les pensées de Dieu. Ainsi est définie sa mission dans le monde. La faute originelle a rendu notre tâche plus pénible. Elle ne l'a pas changée. Notre Rédempteur nous enseigne qu'elle reste une collaboration aimante avec Dieu, en vue de réaliser ses desseins créateurs. Cette leçon se dégage de l'allégorie des talents, que je vous rappelle à grands traits. Un propriétaire, avant de partir pour l'étranger, avait confié sa fortune à trois de ses serviteurs. Talent était chez les Juifs l'unité monétaire la plus considérable. Il donne à l'un des cinq talents, à l'autre deux, au troisième un seul. Répartition inégale. Juste cependant, car le maître partage selon la capacité de chacun. Puis il s'en va. Les années passent. On n'entend plus parler de lui. Les choses vont leur train comme s'il avait disparu pour toujours. Les deux premiers serviteurs font fructifier l'avoir de leur maître au point de réussir à doubler son capital. Le troisième raisonne autrement. Il n'a pas demandé son talent. Il le rendra tel quel. Mais, pour ne pas s'exposer à le perdre, il l'enfouit dans une cachette sûre. Longtemps après, quand on ne l'attendait plus, le maître revient et se fait rendre des comptes. Les deux premiers serviteurs lui remettent les talents qu'ils ont reçus et ceux qu'ils ont gagnés. Tout appartient au maître, capital et intérêt. Quant à leur camarade qui se croyait quitte en restituant intégralement son dépôt, le maître, irrité, le déclare coupable parce qu'il n'a pas fait valoir la somme qu'il lui avait confiée et il le condamne au dernier châtiment. Vous l'aurez observé, cette histoire en elle-même est assez invraisemblable. Elle n'a de sens qu'appliquée à nos relations à l'égard du maître de notre vie. Alors, toute obscurité disparaît. Jésus y enseigne clairement le droit de Dieu sur toute notre activité humaine. Notre vie n'est pas un accident sombre entre deux sommeils infinis. Elle est l'intention d'une sagesse infinie. Nous ne sommes pas des oubliés sur cette planète. Dieu nous y a placés pour un but déterminé. Car il est le maître de ce monde, le maître que l'on ne voit pas, comme dans la parabole. Quoique invisible, il n'est pas absent, il ne vit pas dans un ciel étranger à notre petite terre. Ces créatures cesseraient d'exister si elles se désintéressaient d'elles, et il doit recevoir de chacune un concours précis. Aux hommes, il demande un concours volontaire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu accompliras sa volonté. Il appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Puis il partit. Aucune explication n'est fournie aux serviteurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Encore moins pourrions-nous hésiter sur l'emploi de la vie que Dieu nous a donnée. Tout ce que nous possédons lui appartient. Nous devons travailler pour notre maître, sur son fonds, avec les biens qu'il nous a confiés. Vainement, objecterait-on, je n'ai pas demandé à vivre. Pourquoi serais-je lié envers qui que ce soit? Certes, il n'y a pas de contrat entre Dieu et nous, parce qu'un contrat ne se dresse qu'entre des personnes ou des puissances ayant des droits réciproques. L'humilité nous a appris que nous n'avons envers Dieu que des devoirs. La vie est un don et une charge. Notre devoir est d'en faire ce pourquoi son auteur nous l'a donné. C'est-à-dire développer jusqu'à son plein épanouissement notre être tout entier, physique, intellectuel, affectif, spirituel. Et puisque Dieu nous a destinés à l'état de société, notre tâche doit s'insérer dans celle de la famille humaine pour contribuer à la vie de tous et au perfectionnement collectif d'une humanité en marche vers sa fin divine. le maître de notre vie. Un homme, sur le point de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Dieu a fixé l'emploi de notre activité en nous appelant à la vie. Il nous associe à son œuvre. Lorsque Dieu eut placé le premier homme dans le jardin de délices, il lui assigna sa fonction, conserver la création et la compléter par son œuvre personnelle. Le récit biblique nous fait assister ensuite à une scène dont la description imagée recouvre un sens profond. Dieu fait défiler devant Adam les animaux des champs et les oiseaux du ciel, en l'invitant à leur donner un nom. L'homme introduit par le Créateur dans le grandiose ouvrage de l'univers franchit en même temps le seuil de la science. Son savoir consistera, suivant le mot de Kepler, à repenser les pensées de Dieu. Ainsi est définie sa mission dans le monde. La faute originelle a rendu notre tâche plus pénible. Elle ne l'a pas changée. Notre Rédempteur nous enseigne qu'elle reste une collaboration aimante avec Dieu, en vue de réaliser ses desseins créateurs. Cette leçon se dégage de l'allégorie des talents, que je vous rappelle à grands traits. Un propriétaire, avant de partir pour l'étranger, avait confié sa fortune à trois de ses serviteurs. Le talent était chez les Juifs l'unité monétaire la plus considérable. Il donne à l'un des cinq talents, à l'autre deux, au troisième un seul. Répartition inégale, juste cependant, car le maître partage selon la capacité de chacun. Puis il s'en va. Les années passent. On n'entend plus parler de lui. Les choses vont leur train comme s'il avait disparu pour toujours. Les deux premiers serviteurs font fructifier l'avoir de leur maître au point de réussir à doubler son capital. Le troisième raisonne autrement. Il n'a pas demandé son talent. Il le rendra tel quel. Mais, pour ne pas s'exposer à le perdre, il l'enfouit dans une cachette sûre. Longtemps après, quand on ne l'attendait plus, le maître revient et se fait rendre des comptes. Les deux premiers serviteurs lui remettent les talents qu'ils ont reçus et ceux qu'ils ont gagnés. Tout appartient au maître, capital et intérêt. Quant à leur camarade qui se croyait quitte en restituant intégralement son dépôt, le maître, irrité, le déclare coupable parce qu'il n'a pas fait valoir la somme qu'il lui avait confiée et il le condamne au dernier châtiment. Vous l'aurez observé, cette histoire en elle-même est assez invraisemblable. Elle n'a de sens qu'appliquée à nos relations à l'égard du maître de notre vie. Alors, toute obscurité disparaît. Jésus y enseigne clairement le droit de Dieu sur toute notre activité humaine. Notre vie n'est pas un accident sombre entre deux sommeils infinis. Elle est l'intention d'une sagesse infinie. Nous ne sommes pas des oubliés sur cette planète. Dieu nous y a placés pour un but déterminé, car il est le maître de ce monde, le maître que l'on ne voit pas, comme dans la parabole. Quoique invisible, il n'est pas absent. Il ne vit pas dans un ciel étranger à notre petite terre. Ces créatures cesseraient d'exister si elles se désintéressaient d'elles. Et il doit recevoir de chacune un concours précis. Aux hommes, il demande un concours volontaire. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu accompliras sa volonté. » Il appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Puis il partit. Aucune explication n'est fournie aux serviteurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Encore moins pourrions-nous hésiter sur l'emploi de la vie que Dieu nous a donnée. Tout ce que nous possédons lui appartient. Nous devons travailler pour notre maître, sur son fonds, avec les biens qu'il nous a confiés. Vainement, objecterait-on, je n'ai pas demandé à vivre. Pourquoi serais-je lié envers qui que ce soit? Certes, il n'y a pas de contrat entre Dieu et nous, parce qu'un contrat ne se dresse qu'entre des personnes ou des puissances ayant des droits réciproques. L'humilité nous a appris que nous n'avons envers Dieu que des devoirs. La vie est un don et une charge. Notre devoir est d'en faire ce pourquoi son auteur nous l'a donné, c'est-à-dire développer jusqu'à son plein épanouissement notre être tout entier, physique, intellectuel, affectif, spirituel. Et puisque Dieu nous a destinés à l'état de société, notre tâche doit s'insérer dans celle de la famille humaine pour contribuer à la vie de tous et au perfectionnement collectif d'une humanité en marche vers sa fin divine. Dans cette œuvre collective, Dieu attribue à chaque homme une fonction propre. Les conditions de vie qu'il nous a faites, les dons qu'il nous attribue, déterminent nos obligations particulières. Nos responsabilités augmentent dans la mesure où nous détenons une plus large part de dons, physiques ou intellectuels. Car le Seigneur a remis à chacun selon sa capacité. Il a proportionné ses dons à nos tâches. Tout ce que nous tenons de lui, nos années d'existence, nos qualités, nos ressources de tout genre, notre acquis quotidien doit être employé à exécuter la volonté de Dieu sur nous et sur le monde. Ses talents doivent fructifier entre nos mains. Il nous faudrait le regard de Dieu lui-même pour embrasser l'étendue des capacités contenues dans la vie d'un seul homme. Nous déplorons la gelée d'avril qui jonche le sol des jardins de tant de fleurs perdues. Quelle ne devrait pas être notre tristesse en songeant à toutes les virtualités d'une vie humaine qui reste inemployée? Et si nous pouvions additionner toutes les vies inutilisées? Que de trésors engloutis qui auraient enrichi le monde? Que d'esquisses inachevées d'où pouvaient sortir des chefs-d'œuvre? La cause de tant de gaspillage, nul autre que l'erreur qui pousse les hommes à s'évader de leur œuvre propre. Tel rêve d'un impossible cumul où il jouirait à la fois de plusieurs vies pour satisfaire tous ses désirs. Tel autre se plaint d'une existence qui ne répond pas à ses goûts. Les deux talents qu'il a reçus ne le contentent pas, il en désirerait cinq. Pour nous assurer une activité féconde, Jésus nous ordonne de vous engager entièrement dans le cadre providentiel de notre vie. Cadre familial, où commencera votre devoir d'État. Cadre professionnel qui spécifie votre tâche. Cadre social et cadre national où, bénéficiant du travail d'autrui, vous avez à fournir votre service fraternel. Tous ces cadres où votre vie se déroule vous sont généralement imposés par celui qui distribue diversement ses talents. Sans doute, il arrive à quelques-uns de pouvoir choisir leur carrière. Et l'on ne fonde un foyer que volontairement. Toujours est-il que, le plus souvent, des circonstances indépendantes de notre volonté orientent et limitent nos choix. Et les cadres, une fois choisis, ne s'élargissent pas plus à notre gré. Un autre que nous a tissé la trame de nos existences. Nous devons accomplir notre œuvre là où Dieu nous a placés. L'obligation du don total de notre activité à Dieu nous permet de préciser quelle est, dans la vie de l'homme, la place du travail proprement dit. Quoique toute occupation du corps ou de l'esprit puisse être appelée un travail, on réserve ordinairement ce mot pour désigner l'activité humaine ou intellectuelle que l'homme exerce en vue de produire un bien utile à lui-même ou à la société. Ce travail est lucratif et productif, fait partie de notre œuvre d'homme, mais il n'en est qu'une partie. Les conditions du travail des hommes sont le problème d'une époque. L'Évangile, doctrine éternelle, se borne à poser le principe moral qui doit commander les solutions économiques de tous les temps. Il n'y a pas pour Jésus un problème du travail. Le travail est une loi. Il est le moyen nécessaire par lequel l'homme conserve et développe sa vie. Il est également indispensable au bon fonctionnement de la société. Mais la vie est au-dessus du travail. Faire du travail la fin de l'homme, comme le veulent certaines écoles sociales, aboutit à mutiler à la fois sa personnalité et sa vie. Le travail n'a de valeur que parce qu'il concourt à la vie. L'homme ne vit pas pour travailler, il travaille pour vivre. Et nous prenons ce mot dans sa signification totale. Cette distinction est capitale. Elle seule garantit la dignité humaine. Avant d'être industriel, médecin ou commerçant, cultivateur ou ouvrier d'usine, vous êtes homme. Votre profession ne peut vous faire négliger ni votre vie personnelle, ni votre vie familiale. La collaboration que Dieu vous demande suppose le don de toute notre activité. Elle comprend le travail professionnel, mais elle le déborde. L'homme n'agit pas seulement lorsqu'il manie un outil ou une plume. Son activité se manifeste aussi quand il prie, quand il réfléchit, quand il aime, quand il élève ses enfants, quand il développe son savoir et sa vertu, ou quand il les répand autour de lui. De même que la situation sociale la plus élevée ne dispense personne des devoirs du foyer, de même, inversement, celui qui, dans le cadre social, est affecté à des besognes humbles ou dures, ne doit pas être mis dans l'impossibilité de développer sa personnalité. Parce que le travail est subordonné à la vie, il ne saurait aborder toute l'activité humaine. Aussi est-il conforme à l'Évangile d'assigner des limites à la durée du travail productif et de ménager à tout homme un repos positif et fécond. Est-ce que toute la vie du mineur s'écoule dans la fosse où il attaque le charbon, dont la poussière noircit ses poumons? N'est-ce pas quand il est remonté à l'air libre, quand il a fini son travail, qu'il commence vraiment à vivre? Fier de sa rude tâche, il peut l'être, car il empêche ses frères de mourir de froid. Mais n'a-t-il pas, lui aussi, le devoir et le droit de mener une vie humaine et familiale, de développer son esprit, de cultiver son âme? Dieu l'appelle à la réalisation de toute sa vie. La société ne peut lui dénier ce droit. Ailleurs, le machinisme ou le travail à la chaîne contraignent un ouvrier à répéter indéfiniment les mêmes gestes, au point de n'être plus lui-même qu'une pièce de la machine qu'il conduit. Dira-t-on que cet homme trouve matière à son perfectionnement dans la fatigue monotone de ce travail parcellaire? Les progrès du machinisme doivent donc tendre à libérer le plus possible le travailleur d'une tâche automatique, afin qu'il puisse exercer à côté d'elle son activité d'homme. Encore faut-il que la diminution des heures de travail, comme le notait Léon XIII, ait pour conséquence le repos, et non pas une stérile oisiveté ou le chômage fauteur de vices et dissipateur de salaire. Ce problème qui est à l'ordre du jour est très mal posé et quasi insoluble. Tant qu'on fait du loisir un simple passe-temps ou un désœuvrement dangereux. Il ne trouve de solution que dans la doctrine de l'Évangile. Le travail cesse, la vie ne cesse point. Or, c'est de notre vie totale que Dieu se réserve l'emploi. Le repos ne s'oppose point à l'activité, il en fait partie comme le travail. Tous les deux doivent converger au développement de notre vie. Nous sommes stériles, faute de repos, plus encore que faute de travail, écrivait Gratry. Le repos est un temps pendant lequel l'esprit tendu et le corps lassé se recréent afin de se rendre disponible pour un nouvel effort. Les rouages du cerveau et de l'organisme ont besoin qu'on leur donne périodiquement du jeu. Le loisir n'a pas pour objet de procurer des heures creuses de jouissance ou d'inertie. Il est l'occasion d'un changement d'occupation qui fait diversion au travail imposé. Il est le temps de liberté pendant lequel l'homme se complète en rétablissant l'équilibre rompu par la diversité des tâches. Le travailleur manuel se repose en étendant sa culture intellectuelle, l'homme d'études ou de bureau en s'adonnant à un effort physique. Sans loisir, il n'y a pas de place pour la vie familiale, pour l'amitié, pour les fonctions de la vie sociale. Le repos, enfin, et c'est en quoi il est souverainement actif. et le temps de recueillement nécessaire à la vie profonde. L'heure où vous pouvez vous tourner vers Dieu et réordonner votre vie à sa fin éternelle. Le travail vous fait vivre, le repos vous laisse le temps de reconnaître pourquoi vous vivez. Le repos n'est pas un temps perdu. C'est seulement l'oisiveté que l'homme vide son âme, parce qu'alors il ne vit pas. L'Évangile nous fait rentrer dans la vie vraie. Une vie sans loisir est une vie sans travail, selon l'une et l'autre des vies irrégulières. Nous devons aimer le travail et rendre le repos utile. Nous devons pouvoir aimer toute notre vie, puisqu'elle est tout entière, une collaboration avec Dieu. Dieu nous livre tous les domaines de la création, le sol et le sous-sol, les mers et les airs. À nous d'en explorer les richesses et les beautés pour remplir et enrichir la vie humaine et pour contribuer à son perfectionnement temporel et éternel. C'est pourquoi le travail, s'il n'est qu'une des formes de notre activité, en est la principale et il n'est pas facultatif. Si quelques-uns ont la possibilité de choisir leur genre de travail, nul n'est autorisé à ne pas travailler. À tous les hommes incombe le devoir particulier de marquer leur passage ici-bas en accomplissant une œuvre utile. La parabole de Jésus vous en convaincra, si vous voulez bien considérer le sort du serviteur qui avait enfoui son talent. Le talent enfoui. Il faisait triste figure, ce dernier serviteur, tandis que ses compagnons étalaient la fortune qu'ils avaient laborieusement acquise. Son tour venu, il présente l'unique talent qu'il vient de déterrer. Prévenant les blâmes de son maître, il s'empresse de se disculper. Mais l'avocat d'une mauvaise cause se fait vite arrogant. Au lieu de s'excuser, il attaque. Je savais que tu es âpre au gain. Tu veux moissonner sans avoir semé, ramasser les grains sur l'air sans les avoir étendus. Puis il lâche le mot qui explique son incurie. Il n'a obéi qu'à la crainte. Il n'aime pas. J'ai eu peur, soupire-t-il, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu peur de moi, car une gestion malhabile pouvait me faire perdre ton argent. Et connaissant tes prétentions, j'ai eu peur de toi. J'ai enfoui ton talent, je ne l'ai point dilapidé. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Les reproches se pressent sur les lèvres du maître. Mauvais serviteur, tu savais mes exigences, et tu n'as pensé qu'à toi. Paresseux, tu as eu peur de l'effort et du risque. Serviteur inutile, un serviteur qui ne sert pas, c'est le renversement de l'ordre. Il perdra tout. Son talent, sa place, sa vie. Sous cette allégorie, celui que Jésus condamne, c'est l'homme qui se dérobe à la vraie tâche de sa vie. L'oisif, d'abord, qui refuse de servir. Le talent qui n'a pas fructifié entre ses mains aurait procuré à d'autres du travail et du pain. Quiconque garde pour lui son avoir, quel qu'il soit, en prive les autres. Serviteur paresseux. Mais celui qui travaille, en ne poursuivant que des intérêts égoïstes, laisse également son talent improductif. Son activité n'est plus une collaboration avec Dieu. Elle ne dépasse pas cette terre, elle s'y enfouit. Serviteur inutile. Le talent enfoui représente aussi bien l'oisiveté inactive que le travail détourné de sa fin. Ce que Jésus nous interdit, c'est de dégrader la haute notion du travail qui seule le rend obligatoire parce qu'elle l'ennoblit. Les deux choses se tiennent en effet, la dignité et l'obligation du travail. On ne peut sauvegarder ni l'une ni l'autre si l'on méconnaît l'ordre divin. La doctrine est ici confirmée par les faits. Quelle est la doctrine ? Après un de ces miracles, Jésus disait « Mon Père ne cesse de travailler ». Moi aussi, je travaille. Le travail est une loi fondamentale de la vie. Dieu lui-même est toujours à son œuvre créatrice. L'œuvre bonne et utile que Jésus a accomplie reproduit l'œuvre de Dieu et s'y rattache. Le Sauveur s'est consacré entièrement à sa mission, à son travail de Messie. Ayant pris rang dans une humble famille, il faisait l'œuvre de son père dans l'atelier de Joseph. Et quand il fabriquait les socles de charrue, des mêmes mains qui avaient façonné le monde, comme dit Saint Jean Chrysostome, il unissait sa besogne à l'œuvre que Dieu n'interrompt jamais. Jésus, le Fils de l'homme, a voulu remplir, aux deux extrémités du labeur humain, les besognes les plus humbles et la fonction la plus sublime, le travail manuel et l'éducation des âmes. Nos travaux, comme les siens, rejoignent l'action du Père. Ils sont une collaboration, minuscule, mais réelle et nécessaire. À l'œuvre de Dieu, pour l'édification d'une société fraternelle, où tous les hommes puissent vivre en vue de leurs éternelles destinées. La dignité du travail réside dans cette fonction créatrice. Beaucoup en prennent facilement conscience dans l'exercice de leur profession. Tel le savant qui règle la marche hésitante de l'humanité, le prêtre et le professeur qui forment des âmes et des intelligences, le médecin qui fait reculer la mort, le cultivateur qui fait produire à la terre la nourriture des hommes, l'artiste et l'artisan qui commandent à la matière. Néanmoins, dans l'immense chantier du Père, le tâcheron et le manœuvre exécutent eux aussi une besogne indispensable. Que nous ayons reçu 5 talents, ou 2, ou 1 seul, importe peu auprès de l'œuvre de vie dans laquelle nous sommes engagés. La noblesse du travailleur ne dépend pas de l'éclat de ses fonctions, mais de la conscience et du soin qu'il apporte à les remplir. Nul du moins ne doit se soustraire à sa part de travail inutile. Pour annoncer l'Évangile au monde, Jésus-Christ choisit des hommes qui avaient, comme lui, travaillé de leurs mains. Saint Paul ne se contentait pas d'enseigner, quoique son ministère lui donna droit à sa subsistance. Ce lettré, ancien élève de Gamaliel, exerçait aussi un métier. Il tissait les rudes toiles de Cilicie. Il montre fièrement ses mains calleuses aux anciens d'Éphèse. « Ces mains, leur dit-il, m'ont procuré le nécessaire à moi et à mes compagnons. S'il a préféré travailler jour et nuit, dans la peine et la fatigue, dit-il, c'est afin de n'être à charge à personne, de pouvoir secourir ses frères infirmes et de donner à tous ses disciples l'exemple qu'ils doivent imiter. Les premiers chrétiens avaient accepté avec joie une loi qui les faisait ressembler davantage à Jésus de Nazareth. Ils redressaient la tête lorsque les païens, habitués à mépriser le travail pénible, les raillaient d'adorer le fils d'une pauvre ouvrière qui gagnait sa vie en filant. Il est intéressant de lire dans le plus ancien catéchisme, rédigé sans doute au début du second siècle, la Didache, cet avis sur la façon dont les communautés devaient accueillir les chrétiens de passage. S'il veut s'établir parmi vous, et qu'il soit artisan, qu'il travaille et qu'il se nourrisse, s'il n'a pas de métier, pourvoyez à ne pas laisser un chrétien oisif au milieu de vous. S'il prétend vivre sans travailler, observez la sévérité de ce langage, c'est un homme qui fait trafic du Christ. Gardez-vous des gens de cette sorte. Voilà qui est clair. Un disciple abuse du nom de Jésus-Christ quand il prétend vivre du travail de ses frères. Un chrétien n'a pas le droit de rester oisif. Un chrétien n'enfouit pas son talent. Observez en regard ce qui se passe lorsque le travail humain est détaché de l'œuvre divine. Il n'est plus qu'une nécessité individuelle, qu'on subit comme une servitude si on y est contraint, mais dont il est loisible de s'exempter quand on le peut. Le travail n'est plus qu'un gagne-pain. Sa valeur vénale, réelle, est devenue principale, sinon unique. Dans le langage courant, bien travailler, c'est bien vendre ou gagner beaucoup. Peggy s'indignait jadis qu'au peuple le plus laborieux de la terre, on eût présenté comme une victoire la malfaçon et le refus de l'ouvrage. Que dirait-il aujourd'hui ? Dans ce qu'on appelle l'organisation du travail, on entend discuter que d'horaires trop longs ou trop courts et de tarifs insuffisants ou excessifs. Il n'est pas question d'appréhender son métier, d'améliorer son travail, de faire une œuvre commune. Si le travail n'est qu'une nécessité, l'oisiveté se trouve légitimée pour l'homme qui n'a pas besoin de travailler pour vivre, comme si le caractère désintéressé du travail n'était pas au contraire une joie de plus. Celui qui est libéré des soucis matériels peut s'adonner aux tâches de longue haleine qui font progresser la civilisation. Quand on ne travaille que pour une rémunération, la tentation est grande, hélas beaucoup y cèdent, d'arriver à gagner autrement qu'en travaillant. L'un se contente de faire travailler son argent par le moyen de la spéculation, l'autre monnaie son influence, sa situation, parfois même le nom qu'il porte. La paresse est fertile en expédiant malhonnête. Du point de vue social, le travail, laïcisé, n'est plus également qu'une nécessité économique, un facteur de richesse. Il est dissocié de la personne humaine et celle-ci est abaissée au niveau de la machine. Comment s'étonner qu'un ouvrier aspire au plus haut salaire possible contre le travail minimum, si son labeur est apprécié comme une simple marchandise? Un travail qui ne vaut que pour son profil matériel n'a bientôt plus d'intérêt en lui-même. On ne s'inquiète plus du travail soigné dans lequel on met tout son cœur. Il faut produire le plus possible. On poussait dernièrement ce cri d'alarme. De moins en moins chez l'homme, l'intérêt vital coïncide avec son travail. Celui-ci n'est plus envisagé que sous l'aspect du gain. Mais l'homme n'est pas une mécanique. Il lui faut s'intéresser, se passionner. Il y a plus grave. Dès que l'on ravale la notion du travail, on dresse fatalement employeur et employé les uns contre les autres. La tour du pain l'annonçait dans une page prophétique qu'il intitulait « Le glas d'un régime ». Si l'ouvrier est pour le patron un outil, le patron pour l'ouvrier une caisse qu'il doit remplir, mais qui lui serait beaucoup plus agréable de vider à son profit, si bien qu'à cet outil mis à côté de cette caisse, il ne manque que la main d'un politicien pour l'employer à forcer la caisse. Le cœur, autant que la raison, proteste contre l'avilissement du labeur humain. Non, le travail d'un homme ne se paie pas à prix d'argent. Parce que l'homme met dans son travail quelque chose de lui-même, le meilleur de lui-même. Son intelligence, son goût, son adresse, son dévouement, son amour, et tout cela qui vient de l'âme, n'a pas son pesant d'or. Le travailleur donne plus que la matière de son travail. Il se donne, et cela ne s'achète pas. Ce que vous devez au médecin qui soigne vos enfants ou au maître qui les instruit ne sera jamais compensé par le gain matériel qu'ils en retirent. N'en serait-il pas de même pour le boulanger qui les nourrit, ou le filateur qui prépare leurs vêtements? Aux yeux de Dieu, tout travailleur mérite sa juste part de bien terrestre parce qu'il apporte à la vie collective sa part d'activité. La haute notion chrétienne du travail, en même temps qu'elle en rend l'obligation indiscutable, soutient les hommes dans l'accomplissement souvent difficile de leurs tâches quotidiennes. Tandis que le travail considéré seulement comme gagne-pain et facteur de richesse entretient dans les cœurs les méfiances et les craintes qui le rejettent hors de la vraie vie. « J'ai eu peur, » disait le serviteur qui enfouit son talent. Retirez aux hommes le levier de la confiance en Dieu, aussitôt ils ont peur de la vie, peur du lendemain, peur de le perdre, leur avoir ou leur rang. La peur du dur travail des champs surpeuple les villes où sévit le chômage. La peur du risque retient des milliers de citoyens dans des situations assurées peut-être, mais dont la médiocrité accroît leurs appréhensions en face des charges de l'existence. Alors se révèle la cause déterminante de l'affaiblissement d'une nation, la dénatalité provoquée par la peur de l'enfant. Songez qu'un quart seulement des familles françaises possèdent plus de 2 enfants. Toutes ne sont pas fautives, il y en a qui souffrent d'être involontairement privées du fruit de leur amour. Dans combien d'autres, malheureusement, n'a-t-on pas cédé seulement à la peur? Peur d'écorner son patrimoine, peur de diminuer son train de vie, peur des fatigues et des soucis qu'impose l'éducation des enfants. Et l'on s'est réfugié dans une tranquillité égoïste, tranquillité trompeuse qui soudain jette tout un pays dans l'angoisse. J'ai eu peur et j'ai déserté ma tâche. J'ai eu peur de la vie et j'ai enfoui mes plus vraies richesses. Oui, la vie comporte des risques sévères. Celui qui croit en Dieu peut les courir et il en triomphe. Le travail, l'aisance, la vertu sont l'apanage des peuples où les hommes font confiance dans le Père des cieux. J'ai eu peur. Supprimer l'amour fraternel dans les relations des hommes entre eux, c'est encore la peur qui prend sa place. Parce que l'on avait redouté de s'appauvrir en élevant les salaires, il a fallu, sous la crainte de l'émeute, signer hâtivement des contrats dangereux pour l'industrie, en perdant le mérite d'avoir spontanément fait œuvre de justice. La peur ne règne pas moins sur les chantiers, la peur du délégué, la peur des représailles, jusqu'à la crainte de bien travailler. L'ouvrier consciencieux et actif s'est entendu reprocher de gâcher le métier. Le citoyen thésaurise parce qu'il a peur de l'État, et l'État gaspille parce qu'il a peur de l'électeur. Tout le monde a peur et les initiatives sont brisées. Les valeurs humaines s'abaissent, les talents sont enfouis. Les hommes ne reprendront confiance les uns dans les autres que si nos mœurs publiques, nos lois et en particulier notre régime de travail créent entre eux une solidarité effective. Ils ne se regarderont plus comme des rivaux le jour où des réalisations concrètes feront du travail de chacun la chose de tous. Mais ce progrès social, ne l'attendez pas d'un simple balancement des intérêts matériels. Il a pour condition nécessaire une conception religieuse de la vie. C'est dans la vie vraie que la discipline du travail exerce toute sa fécondité. Tirons brièvement cette dernière leçon de la parole du Maître.